19h04 minutes. J'espère que vous êtes prêts parce que là, on va parler de soccer. Jérémy Filosa est avec nous. Salut, Jérémy.
Salut.
Vincent Destouches est avec nous. Salut, Vincent.
Salut, les gars.
Bon, OK. Dans un premier temps, messieurs, avant qu'on parle de l'Impact, on va parler de la Coupe du Monde. Assurément, la grande finale, c'est dimanche. La Croatie qui va affronter la France. Vincent, est-ce que tu as décidé où tu allais regarder ce match?
Non, pas encore. Je t'avoue que j'ai des propositions. Je ne sais pas encore comment je me sens. On dirait, je te tiens au courant.
OK, parfait. Je tiens à informer les auditeurs parce que lors de notre dernier entretien, Vincent m'a dit, j'écoute habituellement le match à la maison parce que je vis le match, je suis nerveux. Fait que je lui dis,
c'est mieux pour les autres.
Oui, c'est mieux pour les autres. Et là, je lui dis, OK, je comprends un peu. Si c'est contre l'Angleterre, tu vas rester à la maison. Si c'est contre la Croatie, tu vas aller dans un pub pour regarder le match. Mais là, durant le match, voyant la performance de la Croatie face à l'Angleterre, je dis à Vincent, ouais, finalement, d'après moi, tu vas écouter la finale chez vous. Mais il faut avouer vraiment, la Croatie a offert toute une performance, Vincent.
Non, c'est ça. Je pense que mais j'ai jamais pris la Croatie à la légère. J'hésite plus entre le fait d'être en communion avec des gens, de festoyer. Mais la Croatie, pour moi, d'ailleurs, a joué le meilleur soccer de la Coupe du Monde. Ça a été plus difficile pendant deux matchs pour eux contre la Russie et le Danemark. Parce que en face, il y avait des équipes qui étaient venues pour défendre, qui avaient parqué un autobus devant leur surface de réparation, puis ils essayaient de rendre ça impossible à jouer pour l'adversaire. Alors forcément, la Croatie avait l'air un peu moins flamboyante. Mais faut se rappeler au premier tour, la leçon qu'ils ont donnée notamment à l'Argentine. Écoute, aussi, j'entends des gens qui disent c'est une énorme surprise. Alors deux choses. Premièrement, quand tu regardes comment ils jouent depuis le début de la compétition, non, c'est pas une surprise du tout. Puis il faut pas non plus ni sous-estimer ni être un peu insultant envers ces joueurs-là, parce que quand tu regardes les joueurs qui compose l'équipe de la Croatie. Luka Modric joue au Real Madrid, comme Mateo Kovacic. Ivan Perisic est en Italie. Mandzukic, il est à la Juventus. Enfin, je veux dire, il y a des excellents joueurs dans cette équipe de Croatie qui évoluent dans les meilleurs clubs du monde. Et je suis très content pour eux qu'ils aient forgé leur destin et qu'ils aient leur chance de soulever la Grande Coupe.
Jérémy Filosa, qui fait un retour remarqué de vacances, t'as suivi ça du coin de l'œil. T'en dis quoi de cette finale entre la Croatie et la France?
Ben, moi, je t'assommais de voir la Croatie se rendre là. Ben, je vais bien honnêtement, là, moi, j'ai mis mon petit 2, là, on va dire que c'est 2, tout de suite après la première phase de groupe, la seconde que le match entre l'Angleterre et la Belgique s'est terminé, j'ai vu que l'Angleterre se retrouvait du côté le plus faible du calendrier, j'ai mis mon argent sur l'Angleterre. Et rendu...
Aïe, aïe, quelle erreur!
Ben, écoute, rendu... Moi, j'ai quand même eu du 10 pour 1, là. Donc, c'était quand même très intéressant à ce moment-là. Et là, quand j'arrive contre la Croatie, je me suis dit, attends une minute, là, la Croatie sont allés en prolongation contre le Danemark, ont gagné au pénalty contre la Russie. Là, j'ai dit, oublie ça, il restera plus rien dans le réservoir pour la Croatie. C'est dans le sac. En plus, l'Angleterre marque le premier but. En plus, il semblait y avoir des joueurs quand même... vraiment amoché du côté de la Croatie après le match contre la Russie. Donc, je me suis dit, écoute, ça regarde bien mon affaire. Jamais en 100 ans, j'aurais pu penser que la Croatie serait revenue de l'arrière, aurait marqué deux buts, battu l'Angleterre. Mais là, si vraiment il arrive à battre la France, là, vraiment, là, ce sera l'Euro 2004 là, de la Grèce à nouveau. Là, ce sera l'histoire répétée.
Oui, ce sera une épopée fantastique pour la Croatie. Messieurs, et je veux débuter par Vincent, comment on explique un petit pays de 4 millions de personnes nous donne un club comme ça, quand la France a 65 millions de personnes? C'est normal, la France, on le sait, il y a des qualités en France, mais 4 millions de personnes et offrir un club qui est capable de performer. On a vu l'Islande faire ça, l'Uruguay faire ça, le Panama offrir de bonnes performances.
Exactement.
Mais c'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de monde.
Non, mais c'est des traditions. Tu viens de parler de l'Uruguay. L'Uruguay, c'est encore plus petit que la Croatie. C'est 3,5 millions d'habitants. C'est minuscule à l'échelle planétaire, puis en comparaison à d'autres pays qui étaient là à la Coupe du Monde. Mais il y a une tradition de soccer. L'Uruguay produit des joueurs de soccer. Il y en a qui produisent du porc, d'autres du lait, du poulet. Ben, l'Uruguay, c'est des joueurs de soccer. Et regarde les joueurs qui composent ces sélections. C'est ça le nerf de la guerre. Quand je dis que c'est pas une surprise, c'est que individuellement, l'Uruguay, t'as quand même Luis Suarez, FC Barcelone, Edinson Cavani qui est au Paris Saint-Germain, Diego Godin qui est à l'Atlético Madrid. Je peux t'en nommer 6 ou 7 comme ça. Et c'est pareil pour la Croatie. Individuellement, t'as certains des meilleurs joueurs du monde. Quand on parle de Luka Modric, on parle d'un gars qui est digne héritier des Xavi, des Iniesta en Espagne, qui a gagné la Ligue des Champions 3 fois de suite avec le Real en étant un titulaire indiscutable et qui va peut-être remporter le Ballon d'Or à la fin de l'année. Et comment on l'explique en dehors de ça? C'est les performances des autres pays dans cette Coupe du Monde-là. La France, elle a tenu son rang, c'est-à-dire qu'elle a terminé premier de son groupe et elle a affronté les adversaires qu'elle devait affronter. Mais la partie basse du tableau, là où s'est retrouvée la Croatie, c'était extrêmement ouvert après la défaite notamment de l'Espagne. Il y aurait dû avoir un quart de finale entre l'Espagne et la Croatie. Peut-être que là, ça se serait compliqué les choses pour les Croates. Ça n'a pas été le cas quand le chemin vers la finale, c'est Danemark, Russie et Angleterre qui a eu du mal à mettre un pied devant en Coupe du Monde depuis à peu près 50 ans et qui, pour moi, a été une équipe complètement surévaluée dans cette compétition. À partir du moment où ils ont gagné 6-1 contre le Panama, tout le monde s'est pris là-bas pour les champions du monde déjà. Donc, à un moment donné, il faut redescendre sur terre, en tout respect pour le Panama. Et je le répète, la Croatie pratique du magnifique soccer. Donc, tant mieux, parce qu'il y en a eu des critiques aussi un petit peu sur l'équipe de France. Au moins, il y a une équipe qui pratique du beau jeu, la Croatie. Qui s'est en allé en finale, comme quoi il ne faut pas être trop froid et réaliste. On peut gagner en produisant du très beau jeu.
Mais Jérémy, écoute, ramène-nous sur terre, parce que tantôt, je parlais avec Arkadiou Marcouzi, j'ai dit, on a beau se faire des peurs avec la Croatie, là. Dans les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, 2 nuls en faveur, 3 victoires pour la France. T'sais, le mieux qu'on a été chercher, c'est un match nul du côté de la Croatie. La puissance, c'est la France là-dedans dans ce duel.
Ça, c'est certain. Puis écoute, là, Vincent vient d'en parler un peu. Il y a quand même un élément de chance là-dedans. Tu sais, quand tu gagnes 2 matchs au pénalty, tu le sais que tu es à un cheveu d'être éliminé à chaque fois. L'autre match contre l'Angleterre, tu as gagné en prolongation. Ça a quand même été bien gagné. Mais ceci dit, ça aurait pu être la Russie, par exemple. Étant donné le tirage au sort, on va faire une petite comparaison. Puis pour ceux qui regardent ça de loin, tu sais, au hockey, quand tu te qualifies pour les séries éliminatoires, tu sais que le club qui a fini le plus haut va toujours affronter le club qui a fini le plus bas. Donc, tu as toujours... entre guillemets, le meilleur contre le moins bon, tandis qu'à la Coupe du Monde, ça dépend comment ça tombe. Ça fait en sorte qu'on se retrouve avec France-Argentine dès la première ronde du tour éliminatoire. Ça fait en sorte qu'on se retrouve avec Brésil-Mexique dès la première ronde éliminatoire. Et ça fait en sorte qu'il y a des pays, des fois, qui se faufilent. Et il y en a pour, c'est pour ça qu'il y en a qui disent, faudrait trouver peut-être une autre façon de faire pour qu'on se retrouve avec potentiellement 2 des très bonnes équipes à la toute fin et non des clubs surprises comme la Croatie. Ceci dit, ils ont rien volé. Ils se sont rendus là parce qu'ils l'ont mérité. Ils ont travaillé extrêmement fort. Mais t'as raison de le mentionner. Ils sont largement négligés là, dans le match de dimanche pour moi. Là.
Et peut-être une des façons, c'est d'augmenter le nombre d'équipes. Lorsque la Coupe du Monde viendra ici en Amérique du Nord, on passera de 32 à 48. Donc, on ne verra pas des matchs de titans dès le début du tour préliminaire. Ça va être un peu plus loin dans tout ça. Mais 48, il me semble, Vincent, c'est beaucoup quand même.
Ouais, c'est beaucoup. Ce sera une nouvelle mécanique avec une phase de groupe où il y aura seulement 3 nations par groupe. Écoute, c'est un apprentissage et ça peut faire en sorte que le dernier match joué dans chaque groupe va se dérouler avec des conditions sportives où tiens, si toi tu fais un match nul, puis nous on fait un match nul, ça va bien pour nous deux. Alors écoute, est-ce qu'on se serre la main? Moi, j'ai des petits doutes là-dessus. Faudra voir. Mais c'est loin tout ça. Et je le répète, ils se sont retrouvés dans une partie de tableau où ils auraient dû jouer contre l'Espagne, ils auraient dû jouer contre l'Allemagne. Ça n'a pas été le cas. Alors effectivement, ça arrive pas très souvent quand même qu'il y ait une nation surprise en finale de Coupe du Monde. Je pense que ça, c'est un élément nouveau. Si tu regardes les dernières finales, Allemagne-Argentine en 2014, Espagne-Pays-Bas en 2010, France-Italie en 2006, Brésil-Allemagne en 2002. On parle de très grosses nations là. Là, il se passe pour la première fois quelque chose d'un petit peu nouveau, d'un peu frais. Et écoute, moi ça me fait plaisir. Bon, évidemment, là, tu dis que la Croatie, elle est négligée, c'est clair. Par contre, moi, je prends pas ça comme quelque chose de positif, parce qu'il y a un souvenir très récent, et là, les partisans français qui m'écoutent vont tout de suite comprendre de quoi je parle, l'Euro 2016. France-Portugal, qui se déroule en France. La France joue à domicile cette finale face à une équipe portugaise qui n'a rien montré durant tout le tournoi, qui a juste été plus difficile à battre que les autres, qui s'en est sorti avec un élément de chance en plus, et ils l'ont emporté. Alors une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Être favori au coup d'envoi, c'est une chose. Moi, ce que je veux voir, c'est surtout Hugo Lloris soulever la Coupe du Monde à la fin.
Bon, messieurs, alors on se lance, prédiction les deux. La France pour gagner la Coupe du Monde, Jérémy?
Oui, ça va être la France. Moi, je prédis un 2-0.
Vincent?
Ouais, la France. Je pense que quand même, ils seront au-dessus.
J'ai bien aimé ta retenue. Le gars, il, tu sais, je veux pas dire tout de suite à l'avance, mais regarde, t'es obligé, Vincent.
Écoute. C'est correct. Si c'était l'Italie en finale, je dirais l'Italie.
Ah oui, regarde. Bon, mais.
Que, regarde, on loin de la...
pas. Mais Jérémy, ouais. Ils sont pas là cette année, hein?
Ils sont pas là. Mais j'espère qu'ils vont revenir en force au Qatar. On va aller se promener avec nos drapeaux dans la neige au mois de décembre.
Ben oui, clairement. OK, on parle de l'Impact maintenant. L'Impact de Montréal qui va affronter demain le Earthquake de San Jose après cette défaite face au New York City au Yankee Stadium. Écoute, c'est un match où vraiment aucune chance à l'attaque. T'affrontes la deuxième meilleure offensive dans l'Ouest, dans la MLS. Là, t'affrontes un club qui est dernier dans l'Ouest. T'es un club qui est jouable à Montréal devant tes partisans. Tu dois gagner ce match-là, n'est-ce pas, Jérémy?
Absolument. San Jose, c'est la pire équipe de l'Ouest au moment où on se parle. Et puis pour moi, le dernier match à New York, c'est, garde, on met le papier dans la poubelle, puis on passe à un autre appel, parce que pour moi, les matchs au Yankee Stadium, ça n'a rien à voir avec les matchs sur des terrains réglementaires. Moi, je pense que l'Impact peut regarder sur ce qu'ils ont bâti dans les matchs précédents où ils avaient obtenu de bons résultats et dire on continue sur cette lignée-là. Parce que à New York, sur ce mini-terrain, dans un terrain de baseball, moi je savais que ça allait être compliqué. Les joueurs ont eu l'air perdus sur ce terrain-là toute la soirée. En plus, il y avait eu quand même plusieurs remplacements dans l'alignement partant. Donc, moi je pense que l'Impact ne devrait pas avoir de problème à se retrouver au Stade Saputo samedi soir contre San Jose. Puis, tu sais, au début, on disait, ah, ben, garde, c'est le 4-2-3-1 qui nous amène des victoires. On avait gagné deux matchs consécutivement avec le 4-2-3-1. Là, Rémi Garde change le 4-2-3-1 pour le 4-3-3 et le club continue à gagner. Là, on s'est dit, ah, ben, c'est peut-être la combinaison de défenseurs Rod Fanny et Rudy Camacho qui nous permet d'avoir du succès. Oh, là, tout d'un coup, Camacho tombe au combat. Wright, alors, rentre à sa place. On gagne quand même. Donc, là, je pense qu'on peut pas dire que c'est une raison ou une autre raison. Je pense que tranquillement, pas vite, les choses commencent à bien se mieux se porter chez l'Impact de Montréal. Puis moi, le dernier match, je mets ça aux poubelles puis je passe à d'autres choses.
C'est peut-être le niveau de travail qui fait gagner l'Impact, Vincent. Tu sais, en quelque part, j'entendais Rémi Garde parler. Il dit on n'a pas été en mesure d'être le plus dominant que cette équipe-là, qu'on sait que c'est une équipe qui est extrêmement forte. À partir de là, c'est difficile de gagner des matchs.
Non, c'est clair. Mais on en revient à la rotation qui a été effectuée. T'envoies 5 gars en manque de temps de jeu, en manque de rythme. En même temps, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui soient vraiment pas dans un bon jour, qui soient même assez désengagés. Ce fut le cas notamment de Raheem Edwards que j'ai trouvé vraiment désengagé, pas assez volontaire dans ce match-là. Ça a un impact sur les autres, ça a un effet domino. C'est plus difficile pour l'équipe et ultimement chaque joueur qui était venu sur le terrain peut-être pour marquer des points s'en trouve affecté. Fait que c'est dommage, mais comme dit Jérémy, je pense qu'on a bâti assez de confiance dans le processus pour faire en sorte que ça, on dit ok, c'est juste une défaite, mais on passe à autre chose. Ça ne remet absolument rien en cause. Rémi Garde a fait le choix quand même d'envoyer ses meilleurs a priori, donc contre San Jose, et d'envoyer ses éléments B contre une équipe de l'Est. C'est le choix qu'il a effectué, donc par le fait même, c'est victoire obligée contre San Jose. Une équipe en plus qui n'a que deux victoires dans toute la saison. Deux victoires. On pensait que ça allait mal à Montréal. Regardez du côté de San Jose, deux victoires. Et ils en ont aucune lors des 9 derniers matchs. Et ils s'amènent avec une série de 5 défaites, 4 matchs nuls. Donc, aucune confiance. Alors, écoute, ce que je viens de te dresser, c'est le portrait du match piège dans lequel l'Impact tombe souvent, mais n'est pas tombé dernièrement, notamment pas contre les Rapids du Colorado. Mais là, t'as une équipe de San Jose qui arrive avec pas de confiance, qui n'a rien à perdre, qui est capable de marquer, parce que c'est arrivé juste une fois, deux fois cette saison, qui ne marque pas des buts. Et quand tu regardes d'ailleurs toutes les défaites de San Jose pendant l'année, à chaque fois, sauf une reprise, donc 9 de leurs 10 défaites, ils le perdent juste par un but. Donc c'est des matchs accrochés, ça va pas être si simple que ce qu'on pense. Alors c'est pour ça que quand Rémi Garde dit souvent, je veux bien que mes joueurs soient soulagés de cette sortie du gouffre, mais je veux pas de relâchement. Sinon, on va revenir là où on était il y a un mois et demi quand ça a pété. Alors, il faut continuer de travailler, il faut continuer de vouloir la victoire, de vouloir être meilleur que l'adversaire. Et je pense que après la défaite que l'Impact a subie mercredi du côté de New York City, je pense que tout le monde a envie de redresser la barre.
Jérémy, dis-moi donc, dans le dernier match, est-ce que tu trouves que Jackson a saisi sa chance?
Non, mais en même temps, tu sais, je le sais que c'est pas facile pour ces joueurs-là. Vincent parlait de Brahim, Anthony Jackson-Hamel, des gars qui ont pas eu de départ récemment. Et là, l'entraîneur leur dit « Ok, les boys, c'est à votre tour. » Puis là, tu rentres dans un match compliqué comme celui de New York City où t'as des dimensions de terrain complètement différentes, t'as pas de repères. Jackson, c'est un gars qui est rapide. Donc, sur un terrain plus grand, s'il joue la limite du hors-jeu, il peut aller chercher des ballons en profondeur. Mais tant quand un terrain aussi petit que celui du Yankee Stadium, dès que le ballon est lancé en profondeur, le gardien est là puis il ramasse. Donc, c'est pas vraiment fait pour toi. Moi, personnellement, j'aurais mieux aimé voir Mancosu dans ce match-là et peut-être Jackson dans le match de samedi contre San Jose. Peu importe, c'est pas important. Mais moi, ce que je veux voir, c'est Anthony Jackson-Hamel à partir de la prochaine fois qu'il va avoir des chances parce que ça va revenir. Là. Écoute, il y a plein de matchs qui se suivent. Peut-être que son tour viendra la semaine prochaine contre Vancouver en milieu de semaine en championnat canadien. C'est là que je veux le voir capitaliser. Il peut absolument pas laisser passer la prochaine chance qu'on va lui donner sur un terrain réglementaire de faire valoir son pesant d'or parce que sans quoi, moi, je pense que c'est clair que l'Impact se magasine présentement un attaquant de pointe et si jamais on est capable d'en trouver un et qu'on n'est pas capable de se débarrasser immédiatement de Matteo Mancosu, ben peut-être que Jackson va se retrouver dans les estrades. Puis ça, on ne voudrait pas voir ça.
Ben justement, on va prendre quelques instants pour en parler de ce fameux mercato. Tout le monde attendait ça. Quand ça n'allait pas bien chez l'Impact, on se disait le 10 juillet, ça sera l'ouverture du mercato. Qu'est-ce qui se passe? On n'entend rien. Vincent, est-ce que tu as des développements, des nouvelles?
C'est normal parce qu'on sait très bien que l'Impact regarde à l'international. Actuellement. Il regarde à l'international. Jimmy Briand, c'est vraiment le dossier le plus chaud. Mais Jimmy Briand, c'est un Français. Tu veux qu'il vienne, ça te prend une place internationale. Fait que l'ouverture du mercato soit le 10 juillet, le 12, le 14, le 16 ou le 31, si t'as pas une place internationale, il va rien se passer côté Impact de Montréal. Donc il est là le souci actuellement. C'est d'arriver à mon avis, à être patient. De voir qu'est-ce que les autres équipes vont faire. Et ça, je pense que je sais que il y en a qui vont pas aimer ce que je vais dire, mais je pense que ça va prendre du temps côté Montréalais parce que, à mon avis, on joue la montre avec certaines équipes. C'est seulement mon opinion, hein. C'est pas une inside, mais il y a plusieurs équipes dans la MLS qui ont encore des places internationales. Ok, et ta place internationale, quand tu l'as, elle est valable seulement pour la saison dans laquelle tu es. Hein. Donc là, si tu transiges pour une place internationale, c'est pas bon pour 2019, seulement pour 2018. Donc ça sert à rien. Si par exemple toi Jérémy t'es Columbus, t'es à 3 jours de la fin de la fenêtre estivale des transferts, ça sert à rien que tu t'assoies sur ta place internationale qui est disponible si toi t'as même pas envie d'aller chercher un joueur. Donc là tu peux la transiger à moindre frais que ce que là elle se transige. Il y a pas longtemps mon collègue Nicolas Martineau disait que c'était $200,000 d'allocation une place internationale juste pour 3 mois de compétition. Là ça se termine fin octobre, pas sûr que l'Impact de Montréal ait envie de payer le prix fort. Donc peut-être qu'on joue un jeu de patience.
Tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, Jérémy?
Ben écoute, moi je pense que tu sais l'Impact à un certain niveau, puis ça j'en avais parlé avec Joey Saputo lors de l'entrevue qu'il m'avait donnée il y a de cela quelques mois, on s'en souvient. Tu sais, il va falloir éventuellement qu'on revienne un peu à donner des places à des joueurs qui sont des joueurs de milieu de peloton, disons, à des joueurs qui ont des passeports nord-américains, parce que ça commence à coûter vraiment cher. Vincent vient de le mentionner, $200,000 juste pour une deuxième moitié de saison, c'est énormément d'argent, puis je pense que ce montant-là, au cours des prochaines années, va continuer d'augmenter. Donc, tu peux pas te permettre de donner à des joueurs de second ordre, des joueurs qui sont sur le banc, des joueurs qui sont pas nécessairement toujours dans ton 11 partant, une place internationale, parce que ça coûte très cher. Là, si l'Impact veut transiger à l'international, il va falloir que tu départisses de certains joueurs. Est-ce que tu es capable d'échanger, par exemple, un gars comme Victor Cabrera? Est-ce que tu veux échanger un gars comme Victor Cabrera? Donc, ça complique drôlement les choses pour l'Impact de Montréal de toujours devoir gérer cette situation des places internationales, alors qu'aux États-Unis, bien franchement, on voit que les joueurs rapidement obtiennent leur papier de travail et rapidement on est capable de leur enlever l'étiquette de joueur international et passer cette étiquette là à un autre joueur, tandis qu'au Canada ça semble beaucoup plus compliqué. Donc il va falloir avoir cette réflexion là à un moment donné. Je sais qu'on trouve chez l'Impact que des joueurs américains c'est pas nécessairement sexy, mais à un certain moment donné, ça devient peut-être un mal nécessaire.
Mais en tout cas, il y a l'efficacité en premier et on doit débuter dès demain dans ce match face à San Jose. Jérémy Filosan, vous écoute demain à compter de 19h, émission d'avant-match?
En fait, là, demain, là, pour ceux qui aiment pas écouter Jérémy Filosan à radio, c'est pas une bonne journée pour vous, hein, parce que je débute les amateurs de sport à 16h et je laisse le micro à 23h demain soir. Donc, amateurs de sport, avant-match de l'Impact, match de l'Impact, après match de l'Impact, vous allez en avoir plein les baskets.
Tu fais un Kevin Anderson et John Isner de trois mains.
Ouais, c'est quasiment comme un téléthon là demain, un téléthon sport signé Jérémy Filosa. Donc vous allez m'avoir en direct du stade Saputo dès 16h demain.
Parfait, on vous écoute demain en direct du stade Saputo. Vincent Destouches, on écoute le reportage du côté de TVA Sport. Merci beaucoup les gars, merci d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
Salut.
Merci, au revoir. On s'arrête quelques instants au retour. C'est un retour à de vieilles amours pour Alexandre Tagliani. Il fera un saut chez NASCAR dans la série Camionnette. Il est avec nous au retour.